Chapitre 44. La salle du conseil était pleine au sens propre du terme en ce quatrième jour du procès de Obermalo, maître marchand. Quoique fort diminué, le seul conseiller absent ce jour-là était pour l'heure occupé à maudire la fracture du crâne qui le clouait au lit en un moment pareil. Il n'était pas jusqu'aux galeries qui ne fussent encombrées de gens que l'influence, la richesse ou une persévérance plus que diabolique avaient réussi à faire pénétrer dans la salle. Le reste de la foule grouillait, massé en petits groupes autour des écrans géants en tridi qu'on avait installés sur la place du conseil. Avec l'aide toute symbolique d'un service d'ordre visiblement débordé, encore Jell parvint à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Puis il se fraya un chemin guère plus aisé jusqu'au siège qu'occupait Obermalo.
Par Seldon, fit celui-ci, j'ai bien cru que vous n'y arriveriez jamais. Vous l'avez ?
Tenez, dit Jell. Voilà ce que vous m'aviez demandé.
Bon. Comment prennent-ils la chose dehors ?
Ils sont déchaînés, fit Jell, l'air visiblement embarrassé. Vous n'auriez jamais dû tolérer que les débats soient publics. Vous auriez pu demander à ce qu'ils soient interrompus.
Justement. Je tenais à ce qu'ils soient publics.
On parle de lynchage. Et les hommes de Publis Manlio sur les planètes extérieures,
c'est ce que j'allais vous demander, Jell.
Je suppose qu'ils montent les collègues religieux contre moi ?
Non, vous croyez ?
Mais mon vieux, je n'ai jamais vu machination aussi bien orchestrée de toute mon existence. D'un côté, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, c'est Manlio qui fait office de procureur, puisque, je vous le rappelle, le cas relève de la juridiction interstellaire. D'un autre côté, avec sa casquette de grand prêtre et de primat de l'Église, il ne se prive pas d'exciter les hordes de fanatiques.
Bah. N'y pensons plus. Vous vous souvenez de cette citation de Hardin que vous m'avez balancée le mois dernier ? Eh bien, on va leur faire voir ce que c'est que d'être du mauvais côté du canon.
Le maire fit son entrée. Les conseillers se levèrent. Malo chuchota.
C'est mon tour aujourd'hui. Profitez du spectacle. On va bien rigoler.
Le procès commença. 15 minutes plus tard, Obermalo s'avançait au milieu des regards hostiles, jusqu'au pied du pupitre où trônait le maire. Un pinceau lumineux le suivait, et sur les écrans publics aussi bien que sur ceux des appareils privés qu'on trouvait dans presque chaque foyer des planètes de la Fondation, la haute silhouette de l'accusé se découpa, solitaire et farouche. Il prit la parole, calme et sûr de lui.
« Pour gagner du temps !» Je reconnais l'exactitude de tous les chefs d'accusation relevés contre moi. L'histoire du prêtre et de l'émeute telle que l'a évoquée le procureur est exacte dans ses moindres détails.
Un murmure parcourut l'assistance, tandis que des vociférations triomphantes se faisaient entendre de la galerie. L'accusé attendit patiemment que le silence se fût rétabli.
Toutefois, le tableau qu'il a brossé n'est pas complet. Loin de là. Je demande l'autorisation de le compléter à ma façon. Mon récit pourra au premier abord vous paraître sans rapport avec ce qui nous occupe. Je vous prie de m'en excuser d'avance.
Sans lire ses notes, Malo poursuivit.
Je commencerai là où l'a fait l'accusation, à savoir par les entretiens que j'ai eus avec Joran Sutt et Jem Twer. Ce qui s'est passé lors de ces entretiens, vous le savez déjà. On vous a rapporté les propos que nous avons échangés et je n'ai rien à ajouter à cela, hormis les réflexions que j'ai eues ce jour-là. À l'issue de cette journée, mon sentiment dominant était la méfiance. Il faut dire que les événements que nous venions de vivre avaient de quoi le justifier amplement. Comment ? Voilà deux personnages que je ne connais pour ainsi dire pas ou très peu et qui viennent me faire des propositions insensées. Le premier, le secrétaire du maire, me demande de jouer le rôle d'agent secret du gouvernement et de remplir une mission extrêmement confidentielle, dont on vous a déjà expliqué la nature et l'importance. Le second, chef autoproclamé d'un parti politique, me demande de me présenter aux élections. Il veut que je brigue un siège au Conseil.
J'ai cherché, bien sûr, leur vrai motif. Celui de Sutt semblait assez évident. Il n'avait pas confiance en moi. Peut-être croyait-il que je vendais à l'ennemi des secrets atomiques et que je préparais une révolte. Peut-être voulait-il ou pensait-il précipiter les événements. Dans ce cas, il lui fallait pour m'accompagner dans ma mission un homme à lui qui m'espionnerait. Cette pensée toutefois ne m'est venue que plus tard, quand Jem Twer est apparu. Qu'on y réfléchisse, en effet. Twer se présente comme un marchand qui a renoncé au commerce pour la politique. Et pourtant, je ne sais rien de sa carrière commerciale, bien que je connaisse fort bien la question, c'est mon métier. Qui plus est, bien que Twer se vante d'avoir reçu une éducation laïque, il n'a jamais entendu parler d'une crise Seldon.
Obermallow marqua un temps pour bien insister sur ce point. À sa grande satisfaction, et pour la première fois, un long silence accueillit ses déclarations. L'auditoire, y compris et surtout la turbulente galerie, retenait son souffle. Il en allait de même sur l'ensemble de Terminus. Les habitants des planètes extérieures n'auraient droit qu'à des versions censurées conformes aux exigences de la religion. Ils ne sauraient rien des crises Seldon. Mais le meilleur était à venir, et il n'allait rien en manquer.
Mallow poursuivit. « Y a-t-il ici une seule personne pour oser prétendre en son âme et conscience qu'un homme ayant reçu une éducation laïque peut ignorer ce qu'est une crise Seldon. Il n'existe dans toute la Fondation qu'un seul système éducatif, où l'on évite soigneusement toute allusion à la planification de l'histoire par Seldon, et où on le représente comme une sorte de sorcier de personnage à demi légendaire. J'ai compris alors que Jem Twer n'avait jamais été marchand. J'ai su, avec certitude, que cet homme-là avait été dans les ordres, et qu'il était peut-être même devenu prêtre, et j'ai su, avec plus de certitude encore, que durant les 3 années où il s'était prétendu à la tête d'un parti politique marchand, il n'avait été que l'homme de paille de Joran Sutt. J'ai décidé alors de frapper à l'aveuglette. J'ignorais quelles étaient les intentions de Sutt à mon égard, mais puisqu'il semblait disposé à me laisser un peu d'initiative, j'allais jouer son jeu. Twer, à mon avis, devait m'accompagner dans mon voyage pour me surveiller pour le compte de Joran Sutt. S'il ne venait pas, je savais que Sutt trouverait d'autres moyens de m'épier, moyens dont peut-être je ne m'apercevrais pas tout de suite. Mieux valait connaître l'ennemi. J'ai donc invité Twer à m'accompagner. Il a accepté. Ceci, messieurs les conseillers, explique 2 choses. D'abord, cela prouve que Twer n'est pas un de mes amis témoignant à son corps défendant contre moi pour obéir à sa conscience comme l'accusation voudrait le faire croire. C'est un espion qui s'acquitte de la besogne pour laquelle il est payé. Second point, cela justifie certaines décisions que j'ai prises lors de l'apparition de ce prêtre que je suis accusé d'avoir tué, décision que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer puisque personne n'en a eu connaissance.
Les membres du conseil s'agitaient, chuchotaient. Fort théâtralement, Mallow s'éclaircit la voix et poursuivit.
Il m'est pénible de rappeler quels ont été mes sentiments quand la nouvelle m'est parvenue que nous avions un missionnaire réfugié à bord. Mon impression dominante était celle d'une terrible incertitude. Il s'agissait, ai-je pensé tout d'abord, d'une initiative de Sutt,
mais dont la portée m'échappait. J'étais complètement perdu. Je ne pouvais faire qu'une chose. Je me suis débarrassé de Twer pendant 5 minutes. En l'envoyant rassembler l'équipage, profitant de son absence, j'ai installé un visio-enregistreur, afin que la scène qui allait se produire puisse être conservée et étudiée plus tard tout à loisir. Ceci dans l'espoir que ce qui me déconcertait alors se révélerait peut-être parfaitement clair avec le recul. J'ai dû me repasser ce visio-enregistrement une bonne 50aine de fois. Je l'ai apporté aujourd'hui. Et je me propose de répéter l'opération pour la 51e fois devant vous. Le maire frappa quelques coups de marteau pour demander le silence. Le désordre commençait à s'installer dans la salle et on hurlait depuis la galerie. Sur Terminus, dans 5 millions de foyers, des spectateurs passionnés se rapprochèrent de leurs appareils. Sur l'estrade, Joran Sutt adressa un signe de tête négatif au grand prêtre, visiblement nerveux, sans cesser de jeter un regard noir et féroce en direction de Malo. On débarrassa le centre de la salle, on baissa les lumières. Sans quitter son fauteuil situé sur la gauche de la salle, encore Jell procéda au dernier réglage, et après un léger déclic, une scène holographique apparut sous les yeux du public, en couleur et en relief, ayant en bref tous les attributs de la vie, sauf la vie elle-même. On vit d'abord le missionnaire, meurtri et affolé, planté entre le lieutenant et le sergent. Malo attendant en silence, tandis que l'équipage se massait autour d'eux, Twer fermant la marche. La conversation qui s'était tenue ce jour-là se répéta mot pour mot. Le sergent fut réprimandé par Malo, le missionnaire interrogé. Puis on vit la foule s'approcher, on l'entendit gronder. Le révérend George Parma lança ses déchirantes supplications. Malo dégaina son arme et le missionnaire fut entraîné par les soldats, levant les bras en une ultime malédiction. Une brève lueur apparut, puis s'éteignit aussitôt au-dessus de sa tête. La scène s'acheva sur la vision des officiers figés d'horreur, tandis que Twer portait en tremblant les mains à ses oreilles et que Malo rengainait tranquillement son arme. On ralluma. L'illusion cessa et le centre de la salle apparut tel qu'il était depuis le début. Vide. Malo, le véritable Malo en chair et en os, reprit le cours de son récit.
Cet incident est donc exactement tel que vous la présentez l'accusation. En apparence, du moins. Je vais bientôt revenir sur ce point. Les réactions de Jem Twer montrent bien, soit dit en passant, qu'il a reçu une éducation religieuse. Ce même jour, je lui ai fait observer certains détails incongrus. Je lui ai demandé d'où avait pu venir ce missionnaire, alors que nous nous trouvions au beau milieu d'un terrain vague, et comment une pareille foule avait pu se rassembler, alors que nous étions à plus de 150 kilomètres de l'agglomération la plus proche. L'accusation ne s'est pas arrêtée sur ces problèmes, ni sur le fait, par exemple, que George Parma portait ostensiblement, détail pour le moins étrange, tous les attributs de sa charge. Un missionnaire qui a décidé de braver au mépris de sa vie les lois de Corel et de la Fondation ne va pas aller se promener au milieu de nulle part dans un costume de prêtre tout neuf, visible à des kilomètres. Il y a visiblement quelque chose qui ne va pas. Sur le moment, j'ai cru que Parma était à son insu le complice du Commodore, qui l'utilisait comme appât, afin de nous amener à commettre un délit qui lui permettrait de nous anéantir, nous et notre vaisseau, en demeurant dans le cadre de la légalité. L'accusation a prévu que je chercherais à me justifier ainsi. Elle s'attendait à m'entendre déclarer que la sécurité de mon vaisseau et de mon équipage, que ma mission même était en jeu, et que je ne pouvais tout sacrifier pour sauver un homme qui, de toute façon, avec ou sans nous, aurait péri. Elle m'objecte, à mot couvert, l'honneur de la Fondation et la nécessité de garder notre dignité afin de maintenir notre ascendant. Cependant, On remarquera que l'accusation ne semble pas attacher beaucoup d'importance à Jord Parma en tant qu'individu. N'est-ce pas plutôt étrange? On ne nous a donné sur son compte aucun détail. Nous ne savons pas quand il est né ni où il a été élevé. Nous ne savons rien de sa vie, finalement.
Mais il y a une excellente raison à cela. Et c'est cette même raison qui explique les anomalies de l'enregistrement visiophonique dont je vais vous entretenir à présent.
Si l'accusation s'est bien gardée de nous informer sur Jord Parma, c'est parce qu'elle ne pouvait strictement rien nous apprendre à son sujet. Si la scène que vous venez de voir en 3D sonne faux, c'est parce que Jord Parma joue un rôle, et qu'il le joue mal. En fait, il n'a jamais existé personne de ce nom. Tout ce procès n'est qu'une vaste farce, bâtie sur du vide, le plus gigantesque canular de toute l'histoire judiciaire.
Une fois encore, il dut attendre que l'agitation se soit calmée. Il reprit alors très lentement.
Je vais vous montrer l'agrandissement d'une image de l'enregistrement qui se suffit à elle-même. Lumière, Jell, je vous prie.
Les lumières baissèrent de nouveau et l'espace s'emplit une fois encore de silhouettes pétrifiées. Les officiers de l'étoile lointaine surgirent du néant comme autant de statues de cire figées dans des attitudes impossibles. Mallow, parfaitement immobile, tenait son désintégrateur atomique à la main. À sa gauche, le révérend Jord Parma avait la bouche ouverte sur un cri inaudible. Ses mains tendues comme des serres paraissaient griffer le vide et les manches de sa robe retombaient sur ses bras levés vers le ciel. Et une lueur brillait distinctement au poignet du missionnaire. Celle-là même qui tout à l'heure avait jeté un éclat fugitif. L'arrêt sur image permettait de l'observer désormais tout à loisir.
Regardez attentivement cette lumière qui brille à son poignet, fit Mallow, resté dans l'ombre. Agrandissez cette scène, Jell.
L'image grossit démesurément. Et bientôt la silhouette du missionnaire, telle celle d'un géant, emplit seule l'espace. Puis, on ne vit plus que son bras. Puis seulement sa main qui se détachait immense et décharnée. Le point lumineux était devenu un assemblage de lettres aux contours fluorescents. P. S. K.
Ce que vous voyez là, messieurs, s'exclama Mallow, est un tatouage. Un tatouage invisible à la lumière ordinaire, mais qu'on distingue fort bien à la lumière ultraviolette dont j'avais baigné la salle en branchant mon enregistreur visiophonique. C'est peut-être une méthode un peu naïve d'identification, mais elle donne d'excellents résultats sur Corel, où l'on ne trouve pas de projecteur à UV à tous les coins de rue. Même à bord, c'est par hasard que j'ai fait cette découverte. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà deviné ce que signifiaient ces initiales PSK. Jord Parma connaissait le jargon des prêtres, et il jouait son rôle en comédien accompli. Où il l'avait appris, et comment, je ne saurais vous le dire. Mais PSK signifie « Police secrète corélienne ».
Mallow poursuivit, en criant pour dominer le tumulte.
« J'ai d'autres preuves à l'appui de ce que j'avance ». Sous la forme de documents que j'ai rapportés de Corel et que je tiens à la disposition du Conseil. Que reste-t-il alors de l'accusation? On a déjà dit et répété que j'aurais dû combattre pour le missionnaire au mépris de la loi et quitte à sacrifier la réussite de ma mission, mon vaisseau, tout mon équipage et moi-même pour l'honneur de la Fondation. Mais aurais-je dû me battre en sachant qu'il s'agissait d'un imposteur? Aurais-je dû intervenir, alors, pour un agent secret corélien qui utilisait la garde-robe et l'éloquence empruntée sans doute à quelque exilé anacréonien? Joran Sutt
et Publis Manlio auraient-ils voulu me voir tomber dans ce piège stupide autant qu'odieux ?
Sa voix, éraillée par l'effort, finit par se noyer dans les clameurs de la foule. Des hommes le hissèrent sur leurs épaules et le portèrent jusque sur l'estrade. Par les fenêtres, il apercevait une foule en délire, des torrents humains qui convergeaient vers la place déjà noire de monde. Il chercha des yeux encore gel, mais il ne put distinguer un seul visage dans cette masse grouillante. Peu à peu, il finit par percevoir un cri scandé que reprenait la foule avec une vigueur inlassable, à la limite de la démence collective.
« Vive Malo! Vive Malo! Vive Malo !»